Lucille Como, vous revenez sur l'œuvre de Paul Auster. Il nous a quitté avant-hier, maintenant, et vous avez lu l'un de ses livres.
Oui, c'est une œuvre considérable, des dizaines de livres publiés depuis les années 80, dont certains des sommes. Et je dois commencer cette chronique en confessant mon ignorance quasi totale de Paul Auster, dont j'ai lu des morceaux seulement de textes à l'adolescence. Sans doute était-il trop représenté sur les rayonnages de la bibliothèque parentale pour que je m'y intéresse vraiment. Hier, j'ai donc entrepris la lecture de son dernier livre, publié seulement il y a quelques semaines chez son éditeur historique, Actes Sud, et traduit par Anne-Laure Tissu. Je l'ai lu avec l'espoir de pouvoir exercer cette fameuse technique que je qualifierais de synecdotique. On prend une partie et ça nous renseigne sur le tout. Alors, ce n'est sans doute pas ce qui est advenu, mais en revanche, Baumgartner, c'est le titre du livre, résonne très particulièrement avec l'annonce de la mort de l'écrivain. Alors de quoi s'agit-il ? Baumgartner est un homme qui se sent vieillir. À près de 70 ans, il envisage de quitter son poste de professeur à l'université de Princeton, de boucler enfin son livre sur les pseudonymes de Kierkegaard, de mettre de l'ordre dans les écrits de sa femme adorée, Anna, morte 10 ans plus tôt, de se réconcilier avec sa jeune sœur Naomi et de demander peut-être en mariage Judith, sa amoureuse nouvelle, avec qui il imagine finir sa vie. Finir sa vie, y mettre de l'ordre, de l'amour, de la réparation, voilà ce que compte faire Baumgartner. Le personnage fonctionne comme un avatar de l'auteur, on le sent bien, écrivain et poète comme lui, traducteur, qui a vécu à Paris, a fait de New York son terrain littéraire favori. Il est le héros d'un récit court mais intense, à la construction un peu erratique, comme la pensée du personnage qui s'énonce comme une série de projets petits et grands, réalistes et fantasmatiques, qui ne vont pas sans heurts, petits et grands eux aussi, à la mesure de ce qui arrive au personnage dans les premières pages. On y voit Baumgartner se lever pour écrire, une écriture aussitôt retardée par un enchaînement crescendo de désagréments. Il doit appeler sa sœur, mais le téléphone sonne pour annoncer l'arrivée d'un employé de la compagnie d'électricité. Descendu dans la cuisine, il réalise alors qu'il a laissé le feu allumé sous une casserole qui, vite saisie, lui brûle la main. Puis, quand le dit employé veut accéder au compteur, le voilà qui dégringole dans un escalier, se blessant au genou.
Un début qui ressemble à un petit théâtre comique.
Oui, ces premières pages sont sans doute les plus belles du livre, qui aménagent un entre-deux, accumulant des petits délais. De petits délais avant quoi ? Eh bien, sans doute avant de mourir. Le livre est si plein de la mort, du deuil, de mémoires englouties et de souvenirs remontant à la surface qu'on ne peut les lire que comme ça. Une tentative un peu grotesque et souriante de retarder l'écriture du testament avec des petites choses de la vie courante, une casserole brûlée et la conversation interminable d'un ouvrier inconnu. Un récit plein de vitalité mais obsédé par la perte, d'une part. Le personnage entreprend d'écrire sur le syndrome du membre fantôme qui, même perdu, continue à démanger ou à faire souffrir l'amputé. Et d'autre part, par le hasard et la nécessité, grand thème d'Auster, qu'il dispose ici comme une alternative dynamique, une sorte de jeu avec la notion romanesque de destin. Baumgartner a d'ailleurs un temps le projet d'écrire un livre intitulé « Mystère de la roue », comme une variation sur le motif de la roue de la fortune. En somme, Baumgartner est un livre malin et touchant qui console, parce qu'il est construit de manière à combler toutes les attentes du lecteur amoureux qui cherchera nécessairement les signes du dernier livre, ce qui s'adresse à lui et qui l'assure de sa permanence au-delà de la mort.
Merci beaucoup, Lucille Como.